L'écran radiophonique vous présente un scénario original de Jean-Pierre Junier. Si Mara. Mise en scène production Jean-Pierre Junier. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sur cette marque sont la propriété de l'auteur. Après la messe, le curé l'invite à prendre un petit déjeuner. Gilles lui dit « Je suis triste parce qu'il n'y a personne à la messe. » Le prêtre lui dit « Ici, ça a toujours été comme ça. Les messes blanches n'ont jamais attiré les gens. Puis à 6 heures, on se lève pour aller travailler. » Moi, je ne me lève pas à cette heure-là, parce que personne ne vient. Mais c'est pour que toi, tu te rendes compte du manque de fidèles. La religion catholique est en perte de vitesse. On peut même dire qu'elle va disparaître. C'est à cause de quoi ? Je pense que c'est à cause qu'on a fait une grande erreur. En ayant supprimé le sacré de la messe, en la simplifiant, en la mettant près des fidèles, paraît-il. Et là, on a enlevé le sacré. Et une religion sans sacré, ce n'est plus une religion. Une religion trop près des hommes n'est plus une religion. Et puis on a dit et redit que la religion catholique était œcuménique. Alors les gens se sont dit, pourquoi celle-ci plutôt qu'une autre ? Une religion qui ne dit pas haut et fort qu'elle sert et qu'elle est la seule dans la vérité et qu'elle sert seule Dieu. Jules lui demande « Que faire ?» Le prêtre lui dit « Rien, pour rester fidèle au poste. » Jules se dit que la religion est à l'agonie. Des jours passent. Les parents le voient aller à la messe à 6 heures et le jeudi après-midi faire la confession. Ils sont en partie satisfaits. Sa mère se pose des questions sur son avenir. Elle lui demande « Comment vas-tu faire pour vivre ?» Il lui dit « Je verrai. » Elle soupire et lui dit « J'aurais été moins inquiète si tu avais eu un vrai métier. » Jules ne sait quoi répondre à ses copains qui lui demandent ce que devient son fils. Gilles est gêné et a honte. Il a hâte de connaître son poste, parce que là, il quittera sa famille pour vivre dans son lieu de travail. Les jours passent et pas de réponse. Il trouve le temps long. Un matin, il se dit qu'il ne peut plus continuer à vivre comme ça. Alors il décide, c'est de s'habiller comme avant, et de demander des pubs à mettre dans les boîtes aux lettres. Lorsque le matin, sa mère le voit habillé en civil, elle lui dit
« Oh, mon Dieu !»
Il lui dit « Oui, j'ai décidé de travailler. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça chez toi.
Tu as raison, mon fils. »
Elle l'embrasse. Et après un bon petit déjeuner, il est parti. Rien n'a changé dans l'entreprise. Le patron non plus. Il est surpris de le revoir. Il lui dit « Oh, on m'avait dit que tu étais fait curé. Je comptais plus te voir. » J'ai lui dit « Je suis bien curé, mais j'attends ma mutation. » Dans une paroisse. En attendant, je cherche un peu de travail. » Le patron lui dit. Il a peur de lui donner de l'espoir. Alors il lui dit, « Être prêtre, ça ne doit pas être facile, dis donc. » Lorsqu'il entre épuisé à midi, il retrouve son père à table pour le repas de midi. À la cuisine, son père lui dit « J'avais bien que tu étais quelqu'un de sérieux. » Il se dit qu'il ne comprendra jamais ce qu'est être prêtre. Ce n'est pas sa faute, non. On devrait essayer d'expliquer aux parents ce que ça veut dire et quelle vie va vivre leur fils. Mais enfin, Gilles est heureux d'apporter un peu d'argent à sa famille. Il se dit aussi que peut-être pour avoir une cure, il faut qu'il y ait une place de libre et que ça peut durer. Ça peut durer un certain temps. Il a bien fait de retourner à son travail. Denise dit à Madame Roland que son fils est devenu prêtre. Madame Roland lui dit « Moi, je ne crois pas. J'aime pas les prêtres. » Denise lui dit « Mais mon fils, c'est autre chose. Il est sérieux. Il a même repris son travail. » Madame Roland ne le croit pas. Elle lui dit « Il est curé et il travaille. » « Oui. » Elle lui dit « Je croyais que les curés ne travaillaient pas parce qu'ils étaient trop feignants. » Denise lui dit « Pas mon fils. D'ailleurs, le directeur de son école, l'école où il a été formé pour être prêtre, dit que c'est Dieu qui l'a voulu. » Madame Roland lui dit « Moi, je ne crois pas en Dieu. Comment Dieu, puisqu'il est soi-disant bon, accepte-t-il la guerre ? Non, j'en ai trop vu. » Denise lui dit, « Je ne peux pas vous le dire, vous répondre, parce que je ne suis pas assez calé, mais mon fils, oui. » Madame Roland panique. Elle se dit qu'elle va faire venir son fils pour parler de bondieuserie. Elle lui dit, « Pas la peine. Quoi ? Eh bien, qu'il vienne me voir. » Denise lui dit, « Mais il ne viendra pas, il ne fait pas du porte-à-porte. » Madame Roland lui dit, « Il manquerait plus que ça, que les curés, comme les témoins de Jéhovah, fassent du porte-à-porte. On est déjà assez ennuyés comme ça. Bien, on l'enlève la poussière. » Denise lui dit, « Oui, madame. » Elle se dit qu'elle n'est pas commode. Gilles dit au dîner, il y a des prêtres qui font du porte-à-porte pour annoncer la bonne nouvelle. La mère lui dit, surtout ne va pas se sonner chez Madame Roland. Elle serait furieuse. Gilles lui demande, pourquoi ? Parce que elle lui dit, elle déteste sa religion et les curés. Voilà. Puis un jour, il reçoit par la poste une lettre lui disant où il est nommé. Ça l'émeut, en a peur. Voit sa mère à la cuisine et lui dit, je sais où je suis nommé. Où ? Il lui dit, au Meutier, petit village de l'Isère. Denise est triste. Elle croyait qu'il allait être nommé à Lyon. Elle lui dit, « T'aurais pu demander à être muté à Lyon. » Il lui dit, « Non, c'est eux qui décident. » Il est triste. Elle est si loin. Parce que c'est loin pour lui. Lui qui n'a jamais voyagé. Et puis, elle est dans un endroit qu'il ne connaît pas. Il se demande, comment on va l'accueillir, lui, un étranger, comme ils disent, dans le pays. Oui, on est un étranger. Un étranger qui vient de la ville. Il voit sa mère triste, il l'embrasse et lui dit « Moi aussi, ça m'attriste de te quitter. » Elle lui dit « T'es déjà parti pour le séminaire et maintenant pour aller ailleurs. Comme si des églises, on n'en avait pas plein de livres à Lyon. » Il reste près d'elle toute la matinée. Il a beau se dire qu'il n'est plus un enfant et que c'est normal qu'il quitte ses parents, cela n'empêche pas qu'il soit malheureux de partir. Et puis, c'est une mission que lui donne l'évêché, aller prêcher la bonne parole dans la France profonde. Il est un peu comme un séminaire, comme un missionnaire qui va dans le monde prêcher la bonne nouvelle. Et si ça avait été ça, s'il avait été muté en Chine ou au Congo ou dans un autre pays hostile aux Blancs et à sa religion. À midi, le père arrive. Il les trouve à la cuisine. Il leur demande ce qui se passe. J'y lui dis, j'ai reçu ma lettre de l'évêché. Je suis nommé dans un petit village de l'Isère. Son père est surpris. Je croyais que tu allais être nommé à Lyon. J'y lui dis. Moi aussi, mais non. Le père est triste. Il s'était habitué au retour de son fils. Il était heureux que la vie ait repris comme avant. Qu'il retravaille et donne son salaire à sa mère. Les choses allaient mieux à la maison. Et maintenant, on leur enlève leur enfant et son salaire. Et puis, déjà, toutes ces années de séminaire, sans son salaire en moins, ça n'avait pas été facile. Il soupire et dit « Tu peux pas demander à être nommé à Lyon ?» J'y lui dis « Non, on ne doit pas choisir, c'est eux. » Le père soupire et dit « On était bien tous les trois et les voisins nous respectent. Je savais que tu avais mal choisi ton nouvel emploi à la campagne. Tu vas mourir de faim. Les paysans sont très radins. » Gilles est triste. Il a l'impression que ses parents regrettent surtout son aide. Lui les aime et est triste de les quitter. Son père lui dit, « Et si tu leur écrivais que tu ne veux plus être prêtre, que tu as retrouvé ton travail, que tu ne veux pas le perdre pour aller vivre n'importe où ?» Gilles lui dit, « Non. Si j'ai voulu être prêtre, c'est parce que je veux consacrer ma vie à Dieu et aider les hommes. » Mon père lui dit, « Mais enfin, on ne t'empêche pas d'aller à la messe, de voir le curé et de l'aider. Alors, qu'est-ce que tu veux de plus ?» J'y lui dis, « Tout me donner à Dieu. » Le père lui dit, « Même sacrifier tes parents pour lui ?» Dieu ne le demande pas, mais s'il te le demandait, j'y lui dis, Dieu est pour la famille, il ne peut le demander, peut demander une chose pareille. Père Ferrieux lui dit, il en a bien demandé d'autres, comme celle de tuer son fils, un pauvre homme, et lui-même n'a pas hésité à donner aux hommes en sacrifice son fils. Si gêné lui dit, tout ça, c'était symbolique. Le père n'a pas tué son fils. Dieu a arrêté sa main. Il a voulu voir si l'homme était prêt à tout pour se donner à lui. Pour ce qui est de son fils, il a fait pour que les péchés du monde soient blanchis. Le père hausse les épaules. Denise dit, arrêtez de parler comme ça.
Il s'en va. Voilà tout.
Le repas se passe en silence. Ils sont tous tristes. Le père de voir son fils sacrifier sa vie pour rien. La mère de le voir partir. Une fois qu'elle s'est habituée à le revoir chez elle. Gilles est triste de voir les discussions qu'il a avec ses parents, qui n'ont pas compris pourquoi il veut être prêtre. Dans l'après-midi, avec sa lettre, Gilles va voir le prêtre qui le reçoit. Il sonne une seconde fois.
Bonjour mon père. Entre. Viens, allons au salon. Assieds-toi.
Une fois assis, Gilles lui tend la lettre. Le prêtre la lit et lui dit
« Bon, bien, voilà. Ils en ont mis du temps, mais c'est arrivé. Tu es nommé dans un petit village. Ils veulent t'essayer. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ces petits de paroisses sont grandes en kilomètres, mais petites en population. C'est le plus difficile. La solitude vous prend. »
J'ai lui dit, j'aurai Dieu près de moi. Je prierai.
Le curé lui dit,
ça ne suffit pas. Comme l'on dit, Dieu a besoin des hommes. Et dans ces lieux, les hommes, tu risques de ne pas en voir beaucoup. La solitude va te prendre.
Gilles a un peu peur, il lui dit, vous me démoralisez?
Le prêtre lui dit, non, mais je te présente les choses telles qu'elles sont. Oui, telles qu'elles sont. Mais n'y pensons pas. Nous allons boire à ton nomination.
Il se lève tout joyeux.
Prends dans le buffet une bouteille et deux verres.
Il lui dit, ça c'est bon, c'est du Geneviève, mon péché mignon. Moi je ne bois pas autre chose. Mais je ne bois ça que dans les grandes occasions. Je préfère ça au champagne. J'aime ça. Tiens.
Merci, mon père.
Gilles en boit pour lui faire plaisir. Ça le fait tousser un peu.
Le prêtre lui dit, ça se boit tout doucement, par petite gorgée.
Je lui dis, je ne bois jamais d'alcool, mais c'est bon.
Le prêtre lui dit, l'alcool, c'est le compagnon des solitaires. Fais attention à ne pas y tomber dedans. Je ne dis pas de ne pas boire un peu de temps en temps, mais c'est tout. Trop de nos confrères boivent trop. La solitude. Ah, la solitude.
Il continue à boire en silence. Le prêtre lui demande « T'es heureux de partir pour ta première mission ?» Je lui dis « Oui, mais je suis triste aussi. Je vais laisser mes parents seuls. Ils n'ont pas compris pourquoi je les quitte. Ça les attriste de me voir partir. Moi aussi, ça m'attriste de les laisser. » Le prêtre lui dit « J'irai les voir. » Je lui dis « Ça n'arrangera rien. Ils ont une dent contre la religion que leur enlève leurs petits. » J'irai tout de même et je tâcherai de leur expliquer. Merci, mon père. Voyez-vous, ils sont très pauvres. Il faudrait voir s'ils n'ont pas besoin de quelque chose. Ils sont vieux et ont travaillé dur, travaillent encore très dur. Ma mère fait les ménages et le linge. C'est très pénible. Mon père décharge le camion des halles et travaille dans une cartonnerie. Ils font tous deux de nombreuses heures et malgré tout ont des difficultés à bien manger. Le prêtre lui dit « Je verrai ce que je veux faire, pourrai faire. Ne te fais pas de soucis. » J'ai soupiré et dit « Il y a aussi une chose qui me gêne et que j'ai peur de partir comme ça, seul dans l'inconnu. Est-ce que je serai à la hauteur ?» Le prêtre lui dit « Tu fais comme les missionnaires, mais tu ne peux pas savoir d'avance ce qui t'attend là-bas. Ça peut être plus facile que tu ne le crois. » J'ai lui dit « Mais vous m'aviez dit. » Le prêtre lui dit « Pardonne-moi, mon petit, mais j'ai généralisé. Je ne suis pas un voyant. J'ai voulu te faire comprendre ce que tu risques de rencontrer. Tu vois, des églises vides, il y en a plein. De partout, même ici, à Lyon, et les alcooliques aussi. N'oublie pas, c'est que Dieu est de partout, et que le diable aussi est de partout. La lutte entre le bien et le mal, leur champ de bataille, c'est l'univers en entier. Tu auras beau aller dans les coins les plus reculés, tu ne pourrais pas te soustraire à cette bataille. Et puis, elle est aussi en toi. Tu es né avec le bien et le mal en toi. La lutte se fait dans tous les hommes, en eux-mêmes et en dehors d'eux. Tout ce qui les entoure est une bataille entre le bien et le mal. Mais le mal doit perdre. Tu as compris?
Oui, mon père.
Le prêtre lui dit, de toute façon, que tu restes ici ou que tu ailles là-bas, la tentation du mal, tu l'auras toujours. Parce que tu la portes en toi. Et tu pars quand?
J'y lui dis, dans une semaine, le temps que je prépare et prépare mes parents.
Prêtre lui demande, tu veux continuer à dire ta messe?
Oui, mon père.
Et faire le confesse?
Oui, mon père.
Et Gilles est retourné chez ses parents, un peu retourné de ce que lui a dit le prêtre. Puis se dit que la lutte entre le bien et le mal se joue avant avec tous les hommes, prêtres ou non. Lorsqu'il revoit sa mère à la cuisine, il s'assoit en face d'elle et est en train de coudre des vêtements, ses vêtements à lui. Elle lui dit
« Surtout, ne crois pas que l'on ne t'aime pas et que l'on a... que l'on est attristé pour une histoire d'argent. Nous sommes surtout tristes de te voir partir. Enfin, ton père ne sait pas bien parler, comme tu le sais. Il n'a pas voulu te dire qu'il regrettait ton aide financière. Mais c'est toi qu'il regrette. Enfin, tu vois, tu es déjà parti plusieurs années à cause du séminaire et tu es revenu et on s'est habitué à toi, à notre vie à trois, et voilà que tu nous quittes.
Gilles embrasse sa mère et lui dit « Je sais que vous m'aimez tous les deux. Je pars, c'est pour vivre ma vie de prêtre, mais je reviendrai. »
Elle lui dit « Si tu en as le temps,
j'en aurai toujours pour vous. Et puis, qui sait, peut-être, je serai muté à Lyon. »
La mère lui dit « Je ne le pense pas. Je crois que c'est qu'ils mettent les curés le plus loin qu'ils peuvent de leur lieu d'origine. Pourquoi ? Peut-être pour éviter les habitudes. »
Gilles passe ses derniers jours à travailler pour aider sa famille, à aller à l'église. Sa mère commence à lui préparer ses affaires. Elle lui a acheté de nouveaux vêtements, lui a nettoyé les autres, lui a acheté aussi de bonnes chaussures, quelques livres. Elle s'est renseignée au libraire et le libraire lui a proposé du Bernanos, du Mauriac, etc. Gilles décide de prendre sa bicyclette. Il en aura sûrement besoin là-bas pour ses déplacements. Son père ne va plus au café. Il veut rester le plus longtemps possible près de son fils.
Denise dit aux gens du quartier que son fils va partir.
Une femme grosse joviale lui dit
« C'est un peu comme s'il partait pour l'armée. »
La mère est triste qui part et lui dit
« Oui, et comme s'il partait pour l'armée. »
La femme lui dit
« Mais là, il ne risque pas de se faire tuer. »
Le père est retourné un après-midi au café. Il leur dit que son fils va s'en aller.
Un des vieux lui dit « Peut-être qu'il va devenir pape. »
Les filles savent qu'il va s'en aller.
Un si joli garçon, un mignon comme lui, il va sacrifier sa vie. Les garçons sont bêtes. L'armée, curé, on dirait qu'ils ont peur des filles. Pourtant, on ne l'aurait pas ennuyé.
Gilles passe aussi ses derniers jours à voir son quartier, sa rue, son école. Tout ceci le rend mélancolique. Il se dit qu'il est temps qu'il s'en aille. Trop s'accrocher à un endroit, à quelque chose ou quelqu'un, c'est mauvais pour sa mission. Il doit être toujours parce qu'il a à faire, c'est-à-dire être au service de Dieu et des hommes. Sa valise est prête. Maman a dépensé beaucoup d'argent pour la faire.
Mais tu auras au moins du linge propre et résistant. Je t'ai acheté des chaussettes longues, parce que où tu vas, l'hiver doit être très froid. À la campagne, il fait plus froid qu'en ville. Je t'ai fait des mouchoirs. Je sais, c'est que les prêtres ont des mouchoirs très grands et à carreaux. Je les ai faites avec mes vieilles robes.
Gilles lui dit « Merci, maman », et il l'embrasse.
Son père a aussi fait pour son vélo. Il lui a acheté des chambres à air en plus, changé l'éclairage et les freins. Il lui a aussi acheté pour le porte-bagages des sacoches.
Comme ça, tu en seras pour tes provisions.
Merci, papa.
Et il l'embrasse.
Il sait que ses parents sont tristes de le voir partir. Il sait comment leur dire qu'il les aime.
Il se dit que c'est plus difficile de parler à des gens qu'il connaît qu'à ceux qu'il ne connaît pas, qu'à ceux de sa propre famille.
Enfin, le jour du départ arrive. La valise est déjà près de la porte. La veille, il a dit au revoir à son patron, qui est tout fier d'avoir eu un employé comme prêtre. Chaque fois qu'il va embaucher, il dit tout fier :
j'ai eu un prêtre comme ouvrier. Vous savez, on est une maison sérieuse ici.
C'est comme si il avait la bénédiction de l'Église et que l'Église allait lui donner des recommandations.
Gilles s'est levé de bonne heure et ses parents, à cause du départ du petit, ne vont pas travailler. La valise près de l'entrée de la porte et fermé par une corde. C'est papa qui l'a fermé. Ils prennent le petit déjeuner ensemble. Puis, ils iront se préparer pour aller à la gare routière de Perrache.
Sa mère lui demande « Tu es sûr que tu es bien habillé ?»
Il lui dit « Oui, et puis dans le car, je n'aurai pas froid. »
Et lui demande « Mais pourquoi as-tu mis ta soutane? Ça ne se fait plus. »
Il lui dit « C'est pour montrer qui je suis. Tu comprends? Personne ne me connaît là-bas. »
Elle lui dit « Ah oui, là-bas. Oui, hélas, là-bas. »
Elle a l'impression qui va dans un pays de sauvages au fin fond de la civilisation.
Elle se dit,
c'est un peu vrai, les paysans sont des sauvages.
Ils sortent de l'appartement.
Gilles porte le vélo sur son épaule. Le père porte la valise.
Il demande à sa femme, « Mais qu'est-ce que tu as mis dedans? Elle est lourde, comme si tu avais mis un cochon entier. »
Elle dit, « Rien que du linge. »
Il lui dit, « Tu as dû vider toute une boutique. »
Le père, hier,
au café, il a demandé à téléphoner.
« Je peux, c'est pour mon fils. »«
Oui, bien sûr, Jules. »
Le boutiquier est tout heureux qu'on se serve du téléphone pour un curé. Il se dit que Jules a de la chance que son fils soit curé. Ça en jette. Lui, le sien, le remplacera au café.
C'est pas la même chose.
Jules a téléphoné pour un taxi pour le lendemain pour la gare en bord de chez lui à 8h30. Ils sont dehors, ils attendent le taxi. Les voisins sont à la fenêtre. Ils voient le fils de sueur en prêt partir pour qu'il se prépare à partir chez les sauvages. Une petite femme maigre à cheveux blancs dit :
Vous en avez de la chance d'avoir un fils comme ça. Qu'il est beau en curé, c'est plus beau qu'en civil. J'ai pris à la bibliothèque les mémoires de Foucault, un missionnaire comme votre fils. Parce que j'aimerais bien comprendre où il va. La mère lui dit,
le métier.
La vieille dit,
ah, je dois être en Afrique.
Attention aux cannibales,
aux coupeurs de tête, aux flèches empoisonnées.
Un petit, cheveux blancs, dit
« Moi, j'ai vu Meutier. Alors j'ai cherché l'Afrique. »
La mère ne répond pas. C'est trop compliqué d'expliquer que son fils ne va pas en Afrique.
Le taxi s'est arrêté. Il sort de sa voiture. Un gros à moustache voit qu'il y a un vélo, il n'est pas content. En plus, il voit que Gilles est en curé. Il n'aime pas les curés. Met le vélo et la valise dans le porte-bagages. Se dit qu'il va les faire payer le maxi à ses ploucs. Il va leur faire tourner toute la ville et ces ploucs n'y verront que du feu. Avant que Gilles, intimidé, entre dans le taxi, les gens lui font des signes d'au revoir. Et ils sont partis. Le trajet leur semble long. Gilles regarde par où il passe. Il demande,
mais pourquoi faites-vous ce détour?
L'homme lui dit, c'est à cause des sens uniques. Gilles lui dit,
même avec les sens uniques, on ne fait pas un tel détour.
Enfin, ils arrivent à Perrache, près de la gare.
Ils sortent du taxi. Gilles est furieux. Il dit au chauffeur,
vous avez fait faire un trajet plus long qu'il ne le faut.
Je vais le dire à votre compagnie.
Le chauffeur lui dit, faites ce que vous voudrez.
Un agent les voit discuter. Les grands minces blonds vaeux. Lui demande,
que se passe-t-il?
Le chauffeur dit,
ils ne veulent pas payer.
Gilles dit, c'est faux.
Mais il a fait un itinéraire pour se faire de l'argent.
Le chauffeur dit, j'ai fait ce que j'ai pu.
Gilles dit, non. Il a traversé toute la ville pour me mener jusqu'ici.
L'agent sort sa carte et demande où il a passé et comment.
Gilles lui montre.
L'agent demande au chauffeur,
alors, pourquoi ce trajet?
Le chauffeur est furieux, mais il a peur que ses chefs sache et croit qu'il les fouille.
Oh, ça va, donnez-moi 20 euros et on n'en parle plus.
Le père donne 20 euros au lieu de 50. Et le chauffeur s'en va.
Thank you.
s'en va furieux. Gilles remercie l'agent. L'agent lui dit :
Ce n'est rien, mon père. Mais méfiez-vous, il y a des filous partout.
Puis la famille est allée jusqu'à la gare routière. Là, il y a beaucoup de cars. Comment savoir ? Le père demande à un chauffeur :
Pour aller au Meutier, dans l'Isère.
Le chauffeur réfléchit et dit :
Prenez le car, là, fond, là, à l'arrêt à côté. Et ils y vont.
Le chauffeur prend le vélo et la valise pour y mettre dans le porte-bagages. Le car n'est pas neuf. Il y a déjà dans le car des hommes, des femmes qui ont l'air des paysans en dimanche. Le fort petit à moustache dit :
L'on part de suite.
Oui, on part de suite.
Gilles embrasse ses parents. Ils sont émus tous les trois.
Ton père lui dit : Au revoir mon grand, fais attention à toi.
Ta mère lui dit : Si tu tombes malade, comment vas-tu faire ?
Ne fais pas de soucis, maman.
Et il l'embrasse.
Je viendrai souvent vous voir et je vous écrirai.
Il est entré dans le car. S'est assis à une place à côté d'un gros homme, grand et fort, cheveux rares. Il a fait quelques cheveux sur les côtés qui sont blancs, tête ronde, costume gris. Il regarde à la fenêtre. Gilles se penche à la fenêtre et de la main dit au revoir à ses parents. Le car se met en route. Il regarde ses parents jusqu'à ce qu'il ne puisse plus les voir. Puis, le car file dans la ville. Gilles se sent triste et seul. Il a envie de vomir. L'odeur du car lui est désagréable. Le car file.
L'homme qui est à côté de lui lui dit :
Alors, on est curé ?
Gilles lui dit : Oui, je suis prêtre.
Et vous partez en voyage ?
Non, je vais sur mon diocèse. Je vais à mon diocèse.
L'autre lui dit : Ah, vous avez été muté ?
Non, c'est la première fois. L'homme lui dit :
Alors, ça s'arrose, ça.
Il ouvre son sac de voyage qui est à côté de lui et en sort une bouteille. T'attends à Gilles.
Tenez, c'est du bon.
Gilles lui dit : Merci, je ne bois pas.
L'homme lui dit :
Mais c'est permis, vous ne conduisez pas.
Gilles lui dit :
Je n'aime pas ça.
L'homme lui dit :
Moi j'aime bien. Il ne faut pas tout sacrifier dans la vie, tu sais. Il y a des choses qui sont permises et que tu peux te payer et aimer.
L'homme voit, amène la bouteille, puis la range dans son sac. Il lui dit :
Moi, je ne force personne. Mais comment vas-tu faire là-bas ? Les gens aiment beaucoup boire et n'aiment pas que les autres ne boivent pas comme eux.
Gilles lui dit : Je réexpliquerai. L'homme lui dit :
Ils ne comprendront pas. Ils ont l'habitude depuis l'âge de 8 ans. Gilles est effrayé.
Il se dit qu'il va dans un pays d'alcooliques.
Téléphone portable a sonné.
L'homme prend son téléphone.
Oui. Allô? Oui. Ah, c'est toi. Je suis dans le car, je rentre. La voiture est en panne. C'est pour ça que je prends le car, oui. Bien, ça va. Oui. Je vais aller là-bas. Je n'ai rien à y faire. Ne fais pas de soucis. Oui, tout va bien. Allez, à tout à l'heure.
Il referme son téléphone, le met dans sa poche, il dit à Gilles.
Pardonnez-moi, mais le téléphone, c'est la poisse.
On n'est plus libre.
C'était ma femme. Elle ne me lâche pas les baskets. Ça devient agaçant.
Gilles lui dit, elle vous aime? L'autre lui dit,
ah, c'est du harcèlement. Elle m'emmerde. À force d'être comme ça, je me suis mis à la détester. Il y a des limites tout de même. C'est pas parce qu'on est marié qu'on n'a pas le droit à avoir un peu de liberté. Là, rien. Même la nuit, elle me téléphone. Pourtant, ça fait 24 ans que je ne l'ai pas trompé une seule fois. D'abord, parce que je n'en avais pas envie. Mais à force, elle me donne des regrets et des envies.
Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Si Marat, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.